France Culture.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Un soulagement mêlé d'inquiétude pour les familles des trois otages israéliens libérés ce matin par le Hamas après 16 mois de captivité. Ces trois hommes sont apparus physiquement très marqués. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle d'images choquantes. Une cinquième libération d'otages contre des prisonniers palestiniens au cours de laquelle le Hamas a souhaité une nouvelle fois faire une démonstration de force. Alors que les négociations sur la seconde phase du cessez-le-feu sont au point mort. Donald Trump, source d'inspiration de l'extrême droite européenne, dont les leaders se réunissent ce week-end à Madrid. Et puis nous parlerons des répercussions de l'intelligence artificielle sur les images et sur la façon dont nous les regardons. Alors que l'avenir de la création face à cette technologie est débattu ce week-end à Paris, notre invité Antonio Sommaini, professeur de théorie du cinéma, des médias et de la culture à l'Université Sorbonne Nouvelle. Trois nouveaux otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza ont été libérés ce matin après 16 mois de captivité. Ohad Ben-Ami, Eli Sharabi et Or Levi, tous trois enlevés le 7 octobre 2023, ont été remis par le mouvement islamiste palestinien à la Croix-Rouge à Deir el-Balah ce matin avant de regagner le territoire israélien. Des otages dont les premières images diffusées en direct place des otages à Tel Aviv ont suscité le soulagement de leurs proches mais aussi une vive inquiétude quant à leur état de santé. Ohad Ben-Ami, notamment le plus âgé des trois otages, enlevé avec son épouse du kibboutz de Berry, est apparu très amaigri, déplore sa belle-mère Michal.
Il a l'air dans un état terrible. Aujourd'hui, il est âgé de 56 ans. Et on dirait qu'il en a 10 de plus. C'est triste de le voir comme ça. Et je peux dire, il faut les libérer tous, jusqu'au dernier otage.
Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour.
À Jérusalem pour France Culture. Cette libération d'otages a eu lieu lors d'une cérémonie nouvelle fois très mise en scène par le Hamas.
Oui, avec ces images qui ont été comparées sur les plateaux de télévision israéliens aux photos des survivants des camps de concentration. Les trois hommes sont apparus cadavériques, livides, très affaiblis par 16 mois de captivité. Et sous la contrainte du Hamas, Ohad Ben-Ami, Eli Sharabi puis Or Levi ont pris successivement la parole pour remercier la branche armée du mouvement islamiste de les avoir nourris. Puis ils ont demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de poursuivre à tout prix l'application de l'accord de trêve pour permettre la libération de tous les otages.
Le mouvement islamiste palestinien qui a souhaité, à travers cette mise en scène, faire passer un message ce matin, Thibault.
Et d'abord que le temps presse et qu'une solution diplomatique doit être trouvée au plus vite si Israël veut revoir ses otages en vie. Et puis la mise en scène a été organisée, vous l'avez dit, à Deir el-Balah. C'est la zone la plus dense et la moins détruite de la bande de Gaza. Et l'intention est claire, alors que Donald Trump a émis cette semaine l'idée d'un déplacement forcé des Palestiniens de l'enclave pour pouvoir reconstruire une zone qu'il a décrite comme anéantie, le Hamas organise en réponse une cérémonie sans débordement au milieu de bâtiments intacts à côté d'une route goudronné et met ainsi en avant sa capacité à continuer à administrer un territoire qui a, selon sa propagande, résisté à plus de 15 mois de guerre.
Alors la première phase de l'accord de cessez-le-feu qui prévoit la libération de 33 otages contre la libération de 2000 prisonniers palestiniens se poursuit donc malgré tout. Comment va se dérouler, Thibault, la suite du processus ?
Alors le Hamas a 3 semaines et donc 3 nouvelles vagues d'échanges pour restituer à Israël 8 dépouilles et libérer 9 hommes vivants en échange de 1200 prisonniers palestiniens dont la majorité a été arrêtée à Gaza après le 7 octobre et sans charge avérée. Le problème, c'est que les discussions sur les modalités d'application de la deuxième phase de l'accord qui prévoit la libération de tous les otages et le retrait définitif des troupes israéliennes de l'enclave sont au point mort. Les déclarations stupéfiantes de Donald Trump au début de la semaine sur ces déplacements forcés de Palestiniens n'ont pas facilité les pourparlers et les principaux obstacles n'ont pas été dépassés. Le Hamas veut continuer à jouer un rôle à Gaza. Israël refuse. Benjamin Netanyahou exige de conserver le contrôle de la frontière sud avec l'Égypte. L'organisation islamiste réclame un retrait définitif des troupes de l'État hébreu. Ils ont encore 3 semaines avant la fin de la première phase pour se mettre d'accord. Mais dans ce contexte, chaque vague de libération ne tient qu'à un fil.
Thibault Lefebvre, envoyé spécial permanent de France Culture à Jérusalem. Il s'agit donc du cinquième échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu le 19 janvier dernier. Israël doit libérer aujourd'hui 183 prisonniers palestiniens, des premiers prisonniers palestiniens libérés qui viennent d'arriver ce midi à Ramallah. Le Kenya appelle à un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo et demande au M23 de cesser toute progression après la prise de Goma par le groupe armé et ses alliés rwandais la semaine dernière. Groupe armé anti-gouvernemental qui ne cesse de s'emparer de nouveaux territoires. Un sommet extraordinaire des dirigeants d'Afrique australe et de l'Est est donc organisé en Tanzanie ce week-end pour tenter de trouver une issue à ce conflit dans l'est de la RDC. Sommet auquel doivent participer les présidents rwandais et congolais Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Make Europe Great Again, c'est le nom donné au grand raout de l'extrême droite européenne qui se réunit à Madrid ce week-end, raout organisé par le parti d'extrême droite espagnol Vox, sommet qui rassemble les leaders du parti européen des Patriotes pour l'Europe, troisième force politique du Parlement européen. Des leaders qui entendent bien profiter de la victoire de Donald Trump pour défendre un virage à 180 degrés de l'Union européenne. Antoine Marette.
Ce sommet reprend sans complexe le slogan de Donald Trump « Make America Great Again ». L'eurodéputé RN Philippe Olivier justifie ce choix.
Avec la victoire de Donald Trump, le vrai clivage maintenant dans le monde occidental, mais également dans le monde, c'est celui qui sépare la puissance de la décroissance. Or, l'Union européenne a choisi la décroissance. Et évidemment, face aux États-Unis de Trump qui ont choisi la puissance, ça pose une difficulté majeure.
Sauf que Marine Le Pen a pris ses distances avec Donald Trump depuis l'assaut du Capitole en 2021, dans la droite ligne de sa tentative de dédiabolisation du Rassemblement national. Il y a également des différences de fond entre Donald Trump, libéral assumé, pourfendeur du wokisme, et Marine Le Pen qui défend l'interventionnisme de l'État et reste plutôt en retrait sur les questions sociétales. Cela ne l'empêche pas de se retrouver dans ce sommet aux côtés du très conservateur et russophile Viktor Orban.
Chacun dans son propre pays a sa vision des choses. Nous avons la nôtre et nous sommes fermes dans nos convictions. Donc il y a des partis qui sont un peu plus libéraux que d'autres. Il y a des partis qui ont des visions très différentes et nous le respectons. Chaque parti chez lui est maître un petit peu de sa politique et de sa vision. Nous, on défend nos convictions dans notre pays avec notre culture politique et notre culture nationale.
Dans son discours, Marine Le Pen devrait donc évoquer la nécessité, selon elle, de réformer l'Union européenne et d'établir un dialogue des forces nationalistes avec l'Amérique de Donald Trump.
Antoine Marette, quel avenir de la création face à l'intelligence artificielle? Question débattue tout le week-end à la Bibliothèque nationale de France à Paris, où artistes et experts discutent des enjeux autour des intelligences artificielles génératives. Bonjour Antonio Somaini.
Bonjour.
Vous êtes professeur en études cinématographiques, études visuelles et théorie des médias à l'Université Sorbonne Nouvelle et commissaire de l'exposition Le Monde selon l'IA, qui se tiendra à partir du 11 avril prochain au musée du Jeu de Paume. Alors comment ces technologies d'intelligence artificielle qui se sont largement développées ces dernières années ont-elles affecté le champ des images, mais aussi notre regard et nos représentations ?
Oui, depuis quelques années, en effet, nous sommes entrés dans une phase dans laquelle algorithmes et modèles d'IA s'infiltrent rapidement à travers toutes les strates de la société, de la culture, de l'économie, de la recherche scientifique et des opérations militaires. Partout, cette infiltration soulève de multiples questions épistémologiques, politiques, environnementales. Et je dirais que dans ce contexte, les images jouent un rôle central. Elles sont, d'une certaine manière, la surface visible de toutes ces opérations discrètes, ces processus invisibles, ces boîtes noires. Il y a donc des vrais enjeux qui se jouent sur la surface visible des images et aussi dans le champ de l'art contemporain où depuis plusieurs années, les artistes sont vraiment d'une certaine manière à l'avant-garde de l'exploration de ces modèles avec tous leurs enjeux aussi politiques.
Oui, parce que certains artistes ont déjà pris en charge ces évolutions dans leur travail.
Absolument. Ça a commencé déjà pendant les années 2010. Au début, les artistes s'intéressaient surtout au domaine qu'on appelle de l'IA analytique, c'est-à-dire ces systèmes qui effectuent des opérations de détection, de reconnaissance, de classification, et donc par exemple le domaine de la vision artificielle, de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance des émotions. Beaucoup d'artistes ont abordé ce domaine et ont essayé vraiment de dévoiler un peu les fonctionnements et les enjeux de ces opérations. Après, en 2022, il y a eu l'explosion du domaine de l'IA générative avec le lancement de ChatGPT. outils, de modèles capables de générer des images fixes et un mouvement à partir de mots et de textes. Et donc là, c'est tout un nouveau médium de création artistique qui est apparu et qui est en ce présent, en ce moment, exploré vraiment à 360 degrés par les artistes.
Alors dans ce nouveau médium, justement, est-ce que vous repérez certaines régularités, des thématiques récurrentes chez les artistes?
Voilà. Tout d'abord, c'est vraiment un nouveau médium parce que jamais auparavant dans l'histoire, on a pu générer ou modifier des images à partir de mots et de textes. C'est donc toute la relation entre les mots et les images, le dissible et le visible qui est remise en question. Ensuite, il s'agit de modèles qui fonctionnent de manière assez opaque, c'est-à-dire qu'on écrit des phrases et on attend que des images surgissent. Il y a une grande dimension d'automatisme, mais aussi de hasard, de imprévisibilité. Et les artistes, voilà, essayent de co-créer, de collaborer avec ces modèles et donc de déléguer une partie de leur processus. Cela s'est fait avec beaucoup de surprises, parfois des explorations un peu à l'aveugle. Et on fait face aussi à des modèles qui parfois sont des modèles diffusés en open source, donc ouverts, qu'on peut modifier, dont on peut s'emparer. Tandis que dans d'autres cas, ce sont des modèles produits par les géants de la tech et donc des modèles fermés qui introduisent depuis quelque temps toutes sortes de limites, de barrières, des zones interdites. Donc, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser dans les prompts, il y a des images qu'on ne peut pas faire surgir. Et donc, tout ça conditionne beaucoup le type d'image qu'on peut produire et aussi un peu l'imaginaire qui se développe à travers ça.
Oui, justement, vous notez que les artistes ne réfléchissent pas seulement aux formes produites par l'IA, mais certains réfléchissent aussi dans leurs travaux aux enjeux politiques que soulève justement cette technologie.
Oui, aux enjeux politiques, aux enjeux environnementaux, parce que dans sa phase actuelle, l'IA nécessite, l'IA générative, de colossales ressources énergétiques et matérielles. Donc il y a des artistes qui se penchent vraiment sur cette question, qui s'interrogent même sur la légitimité de faire recours à l'IA dans ce contexte, et d'autres qui s'intéressent, voilà, à la manière dont l'IA générative tendent, voilà, un peu à façonner notre imaginaire, ou encore à la manière dont l'IA générative participe au processus à travers lequel la mémoire culturelle est traité et transformé. Parce que tous ces modèles d'IA générative se basent sur une première phase d'entraînement pendant laquelle des milliards d'images et de textes qui existent sur Internet sont traduits en chiffres, en nombres, pour être traités par des algorithmes et ensuite produisent d'autres images et d'autres textes. Donc on fait face là à la présence de modèles qui jouent un rôle central dans le stockage, le traitement et la transmission de notre mémoire culturelle.
Merci beaucoup Antonio Sommaini. Je rappelle que vous êtes professeur en études cinématographiques, études visuelles et théorie des médias à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation de cet entretien. L'intelligence artificielle, on en parlait, modifie notre regard. Elle a donc bel et bien un enjeu géopolitique et c'est tout l'objet de notre série audio en 6 épisodes que vous pouvez écouter en une de notre site France Culture et depuis l'application Radio France. Plus de 169 salariés du groupe Lubrizol pourraient bien perdre leur emploi en raison d'un plan de restructuration des activités annoncé cette semaine. L'entreprise qui commercialise des additifs pour les huiles de moteur et carburant diesel envisage de supprimer 145 postes de son usine du Petit Quevilly, située près de Rouen. Celle-là même qui avait été touchée par une explosion en 2019. Des suppressions pour faire face notamment à la baisse de la demande d'additifs en Europe, justifie l'entreprise. Une décision vivement dénoncée par les élus locaux et qui suscite l'incompréhension des salariés. Rebecca Arondel.
Sur le site de Petit Quevilly, plus d'un tiers des postes pourraient être supprimés. Les employés sont sous le choc.
On n'a rien vu venir.
Thierry Bazir, délégué syndical de la CGT Lubrizol, travaille depuis 18 ans dans l'entreprise comme opérateur en production. Il s'est toujours senti considéré au travail, mais à présent, il a l'impression d'être un numéro.
Ça te plaît, ça te plaît pas. Si t'es pas content, tu vas chez le voisin et puis terminé. La partie humaine, on l'a un peu oublié. Aujourd'hui, c'est business et profit avant tout. On fait encore 60 millions d'euros de bénéfices à l'année sur deux sites et visiblement, ça suffit pas.
L'entreprise qui appartient au milliardaire américain Warren Buffett justifie ce plan de licenciement par la hausse de la concurrence européenne et la perte de vitesse du marché des véhicules thermiques. De son côté, la métropole Rouen-Normandie dénonce cette restructuration dans un courrier adressé à la ministre de l'Emploi et pointe le manque d'anticipation. Charlotte Goujon, la maire de Petit Quevilly.
Ce sujet-là, il était quand même connu et donc tout ceci aurait dû être anticipé pour essayer justement de peut-être chercher dans les nouvelles productions possibles sur le site quelque chose qui soit compatible ou avec les véhicules électriques ou bien aller chercher des marchés ailleurs que dans les véhicules thermiques.
L'élu rappelle aussi l'engagement des salariés de Lubrizol lors de l'incendie de l'usine en 2019.
Ils ont été exemplaires et donc ils se retrouvent aujourd'hui à payer les erreurs stratégiques d'un groupe. Et c'est ce qu'on regrette nous aussi aujourd'hui.
L'industrie est déjà fragilisée en Seine-Maritime. À Port-Jérôme-sur-Seine, l'entreprise de plastique ExxonMobil fait aussi l'objet d'un plan social.
Un mot du temps qui restera nuageux cet après-midi sur un large quart nord-est et sur les Alpes. Des pluies fines sont également attendues sur le sud-ouest, la Bretagne et le Cotentin. Côté température, les maximales sont en hausse. On prévoit 4 à 6 degrés en moyenne sur le nord et jusqu'à 14 degrés à Ajaccio. C'est la fin de ce journal préparé avec Axel Dubois.